France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Rarement une grève aura été aussi annoncée, aussi attendue dans le premier sens du terme, c'est-à-dire par ceux qui vont la faire comme par ceux qui vont la vivre. En allant travailler, rarement, le gouvernement aura autant essayé de redonner de l'explicatif. Bruno Le Maire l'a encore fait, c'était sur France Inter ce matin. Le climat, pendant ce temps, semble se dégrader. Plus on approche de jeudi, il est acquis que mouvement social il y aura. Finalement, un peu comme quand on attend un ouragan dans un pays tropical, sans savoir si le vent va baisser une fois qu'il aura touché les terres, ou si au contraire, il arrachera beaucoup sur son passage. On a déjà beaucoup dit, y compris ici dans cette émission, beaucoup parlé de l'allongement ou pas de la durée du travail, du recul de l'âge de la retraite. Beaucoup entendu les régimes autonomes inquiets, les régimes spéciaux en colère, les spécificités de chacun s'exprimer, et le tout aller de pair avec les courbes de popularité du gouvernement. Un J-2, préparation minutieuse pour chacun. Nous avons sciemment été notamment chercher deux syndicats, la CGT qui est de plein pied dans le mouvement depuis le début, la CFDT qui l'est aussi par ses cheminots, la CFDT cheminots qui a d'ailleurs appelé aujourd'hui à une grève reconductible, une CFDT cependant qui est favorable à un système universel plus juste et plus lisible. Son patron estimait lui ce matin que le gouvernement avait perdu tout le monde, même si les négociations ne sont pas finies. Voilà où nous en sommes au moment où on se parle. Eh bien, allons-y.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Alexandre, c'est vous le premier, soyez le bienvenu Alexandre et bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Allez-y Alexandre.
Bah, écoutez, voilà, je vous appelle parce que moi, je suis dans le privé. Je n'ai pas l'habitude de faire grève ou de me mêler à ces manifestations-là. Il faut savoir que je ne suis ni syndiqué ni d'un parti politique. Mais là, à vrai dire, je ne comprends plus le gouvernement et sa politique. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va vraiment droit dans le mur. On commence ce mandat avec la suppression de l'ISF. Aujourd'hui, dans votre émission, on apprend que c'est 200 millions d'euros qui manquent dans les caisses des associations. On nous parle de lutte antifraude et puis on apprend que c'est à l'arrêt. On apprend que 10% des plus riches sont responsables de 60% de la pollution. Et là, on nous met sur la table une réforme des retraites où l'on va cotiser pour des points de fidélité, où des ouvriers donc qui ont une espérance de vie bien moindre que la mienne, parce que moi, je suis cadre, j'ai de la chance. On va cotiser pour le même euro, mais ils vont en profiter dans quel état et pour combien de temps. Donc voilà, j'en ai un peu marre, en fait, de partager un gâteau, en fait, où j'ai l'impression que la classe moyenne partage, au final, la classe moyenne et les plus pauvres partagent 10% de ce gâteau, et on est quand même 90%. Donc j'aimerais bien que sur cette mobilisation de jeudi, on ait aussi tout le privé qui se mobilise et qu'on puisse sortir tous pour dire que on va pas dans le bon sens.
Alors on verra si c'est le cas. Alexandre, pardon, j'ai une curiosité, vous travaillez dans quoi? Comment ça se passe pour vous dans le privé pour faire grève? Comment vous vous êtes arrangé?
J'ai tout simplement appelé mon employeur et je lui ai expliqué que ça n'allait pas pour moi et que je pensais que là, il était vraiment temps de se mobiliser. Et je dois dire que j'ai plutôt un écho très favorable dans mon entreprise parce que mon employeur, elle se sent aussi concernée. Il faut savoir que c'est une femme chef d'entreprise. C'est une PME, on est une petite dizaine, mais ce n'est pas facile pour autant, même pour mes collègues. Et j'essaye d'en motiver au maximum. Je sais que c'est pas facile, on a des projets, on a des clients à rappeler, il y a des deadlines, c'est comme pour tout le monde. Mais je veux dire, il y a un moment où on peut pas râler toute l'année et ne pas au bout de... Enfin, moi, je culpabilise, en fait.
Eh ben, écoutez, le message, il est passé. En tout cas, Alexandre, merci beaucoup. On verra s'il y en a d'autres qui sont comme vous. On reparlera, on a déjà eu l'occasion de le faire, mais de cette idée, ou pas d'ailleurs, d'une grève par procuration qui avait été beaucoup évoquée aussi quelques années en arrière. Pour discuter ensemble, et avec vous, bien sûr, jusqu'à 20h, Frédéric Savella, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire national de la CFDT. Bonsoir à vous, Thomas Vacheron. Vous êtes membre de la commission exécutive confédérale de la CGT.
Bonsoir.
Et puis Henri Sterdignac est là avec nous. Bonsoir. Vous êtes
Bonsoir.
Économiste à l'OFC. Vous êtes aussi cofondateur des économistes atterrés. Je vais commencer avec vous, Thomas Vacheron. Vous, à la CGT, est-ce que des Alexandres, vous avez le sentiment qu'il y en a beaucoup dans ce mouvement-là? Est-ce que ça reste marginal ou pas? Est-ce que cette idée que j'évoquais, dont on a parlé déjà dans des téléphones sonnes précédents, de cette fameuse grève par procuration, on a fait beaucoup de comparaisons. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle existe dans ce mouvement-là ou pas?
Alors des Alexandres et des Alexandras, il y en a des millions dans ce pays en fait. Et des salariés du privé qui sont en train de mesurer ce qui est en train de se passer sur leur future retraite, ils le mesurent de plus en plus et ils sont tous concernés. Et évidemment, contrairement à la novlangue du gouvernement qui passe son temps à nous expliquer que ce sont les privilégiés du public qui seraient attaqués et du coup pas ceux du privé, évidemment tout le monde est concerné. Et j'en profite quand même pour dire une chose avant le reste, c'est notre soutien, et je pense que le collègue de la CFDT s'y joindra, aux salariés de Radio France qui subissent, comme vous le savez, on leur demande de faire plus avec moins, et de ce point de vue-là, on les soutient, on tenait absolument à donner ce message. Et pour revenir à Alexandre quand même...
Et merci à vous.
Pour revenir à Alexandre, quand même, aujourd'hui, il y a des millions de travailleurs qui sont concernés. On n'a pas tous la même approche, et c'est le sujet de ce soir, finalement, avec la CFDT notamment, mais il y a une chose qui est simple. Tout le monde partage le fait que ce qui est mis en avant par le gouvernement, personne n'y est pour, hormis le MEDEF, finalement, qui le soutient. Et pour nous, et c'est sans doute là le désaccord sur la question de la retraite par points, prendre toute notre vie plutôt que nos meilleures années, c'est prendre nos pires années de chômage, de précarité. Donc c'est pour vous dire et vous redire que des Alexandres et des Alexandras, il y en a des millions qui vont se mobiliser.
Frédéric Sèvres, moi il y a une chose que j'entends dans ce que nous a dit notre ami Alexandre, c'est on comprend plus en fait. On a un peu l'impression que au fond, à ce stade-là et à deux jours, c'est difficile pour les gens d'être réellement fixés sur ce qui va se passer. Est-ce que au fond, l'un des vrais problèmes n'est pas celui-là ?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, je m'associe au soutien aux salariés, ça vous en fait deux comme ça dans la soirée.
Bah, écoutez, tant mieux.
Mais effectivement, le problème, mais Alexandre l'a très bien dit, et j'allais dire, vous citiez Laurent Berger qui l'a dit, le gouvernement a perdu le fil à vouloir soit courir plusieurs lièvres à la fois, dans une réforme, mais surtout des intentions contradictoires. Hein, c'est-à-dire que manifestement, entre les uns et les autres, entre ceux qui étaient posés au début de l'ouverture des discussions avec Jean-Paul Delevoye et ceux qui s'est égrené notamment depuis le printemps dernier, il y a clairement un espèce de bazar d'intentions qui accroît à la complexité d'un dossier, au caractère un peu anxiogène, c'est vrai, une réforme de retraite. On ne sait pas trop. Il faut qu'il retrouve le sens, en tout cas reprécise le sens d'une réforme, parce qu'effectivement, on a un peu du mal à s'y retrouver.
Et y compris vous perdre, vous, à la CFDT, qui, ben, sur exactement. Le principe d'une réforme systémique, n'étiez évidemment pas opposé.
Sur la construction...
Donc ça fait longtemps, ça date
sur
d'avant.
Sur un aspect cité par Alexandre, nous, l'idée de construire un système universel en points, je ne pense pas que ça pénalise, mais ça, c'est un débat qu'on approfondira peut-être, mais un système universel, ça me semble une bonne chose. Qu'on soit tous solidaires de sa retraite, ça me semble une très bonne chose même. Mais après, il y a énormément à faire. L'enjeu principal d'une réforme, juste pour changer les tuyaux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut toujours, c'est poser des marqueurs de progrès social. Et il y en a un qui nous semble, nous, extrêmement fondamental, c'est la prise en compte, la reconnaissance de la pénibilité du travail, qui est une façon, pas la seule, de répondre à ce que disait Alexandre sur l'inégalité d'espérance de vie entre les catégories socioprofessionnelles. Et là-dessus, pour l'instant, le gouvernement est un peu en cale sèche.
Henri Sterdignac, pourtant, est-ce qu'on dit qu'il y a eu quand même quelques lâchés de lest? On parlait tout à l'heure de la pénibilité, je pense aux droits familiaux, je pense à ce que disait Bruno Le Maire par exemple ce matin sur France Inter au sujet des enseignants. Donc est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a eu une tentative quand même de dire attendez, les portes ne sont pas fermées, on peut encore lâcher du lest? Est-ce qu'on en est à peu près là à votre avis ou pas?
On peut dire qu'on en est là. Le problème c'est que le dossier des retraites est un dossier extrêmement complexe et que visiblement le gouvernement est incapable de présenter à court terme une réforme qui tienne la route. On s'aperçoit petit à petit qu'il y a des problèmes qui apparaissent. Il s'est aperçu que effectivement dans la fonction publique il y avait des victimes, les infirmières, les aides-soignantes, les enseignants. Voilà, donc et qu'il n'a pas l'argent pour augmenter massivement les salaires de ces personnes. Par ailleurs, il y a un problème massif qui est le problème, comme on l'a dit, des emplois pénibles. Et une harmonisation aurait pu effectivement inciter un certain nombre de personnes à approuver cette réforme. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas fait le geste qu'on attendait. Par ailleurs, il n'y a aucune garantie qui a été donnée à l'ensemble des salariés sur l'évolution du niveau des retraites. On nous raconte une histoire extrêmement compliquée avec le point dont on ne sait pas s'il va baisser, pas baisser, dans quelles conditions qu'il décidera. Et donc, le gouvernement n'a pas un projet clair qui puisse rassurer les gens.
Alors, on verra justement au fur et à mesure de ce téléphone sonne si on en trouve un certain nombre qui sont rassurés par ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils vont entendre d'ici à jeudi. Parce que si je ne m'abuse, les négociations, elles continuent. Je me tourne vers vous, Frédéric Sèvres, mais la porte n'est pas fermée pour l'instant.
Continue jusqu'à mercredi. Ouais. Et après, on aura la conclusion, je ne sais pas comment l'appeler, enfin, au moins une première conclusion la semaine prochaine, de mémoire.
Patrice, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Patrice, on vous écoute.
Bien, permettez-moi deux petites remarques liminaires d'ordre différent. Je voudrais avoir une pensée citoyenne pour les familles des militaires qui écouteraient France Inter et des sauveteurs décédés ces derniers jours.
Eh bien, votre message est passé, Patrice. Voilà.
Et par ailleurs, je voudrais dire aussi que j'ai un soutien total à la grève de Radio France et il serait peut-être bon d'avoir un téléphone sonne sur ce sujet qui concerne aussi les auditeurs. Voilà ce que je voulais dire.
Eh ben, on y travaille, Patrice. Tout n'est pas toujours simple et on vous écoute. Allez-y.
Merci. Ben, ma question est la suivante. L'enseignement est une profession financièrement très mal considérée. Qui sera le métier le plus touché par la réforme. Je me demande comment on peut admettre une baisse annoncée de 30% des pensions. On est dans une société où l'enseignement est de plus en plus difficile, avec des élèves de plus en plus durs, des parents, pour employer un euphémisme, pas toujours coopératifs, une hiérarchie qui ne soutient pas toujours ses agents, et où le taux de démission s'accroît d'année en année. Pour résumer, les enseignants étant considérés comme les simples soldats d'éducation, il me vient une pensée datant du temps où je faisais mon service militaire. Quand j'étais à l'armée, les simples soldats étaient grossièrement traités, j'ouvre les guillemets et les parenthèses, de crevures et de merde moyenne. Eh bien, je crois que ce gouvernement de droite sournoise considère, j'ouvre encore les guillemets et les parenthèses, les profs comme des merdes moyennes. Voilà ce que je voulais dire.
Bah, écoutez, comme ça au moins, ce message, il est clairement passé. Patrice, peut-être un peu trop violemment, on va dire, mais enfin, ce sont vos mots, vous avez mis des guillemets et vous avez bien fait. Moi, il y a quand même une chose, j'ai entendu ce matin, je vais me tourner vers vous, Thomas Vacheron, j'ai entendu Bruno Le Maire dire, on a bien entendu sur les enseignants, notamment, qu'il y avait un problème de retraite qui serait moins important. Donc, nous allons y retravailler. Tout ça est sur le tapis. Et pourquoi pas, en fait ? Pourquoi ne pas imaginer que oui, il y aura une revalorisation ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Et oui, on fera en sorte que les enseignants ne perdent pas d'argent.
Alors, c'est très intéressant parce que la CGT a participé à la totalité des négociations depuis plus de 18 mois maintenant. Depuis plus de 18 mois, on pose les bases d'une réforme des retraites qui améliorerait le système parce que nous ne voulons pas le statu quo. Aujourd'hui, vous savez, moi je suis du privé et je laisserai aux collègues de la CFDT compléter sur la question des enseignants parce que, au vu de ce qui touche en début de carrière, c'est le salaire d'un ouvrier finalement maintenant et il y a de moins en moins d'écart entre les salariés et malgré tout, le gouvernement passe son temps à essayer de nous diviser. Mais pour répondre à votre question précisément, ce sur quoi nous nous étonnons, c'est qu'il faut attendre d'avoir une mobilisation d'ampleur, de diffuser un 4 pages que nous avons diffusé la CGT à 2 500 000 exemplaires. Une annonce d'une grève qui va être massive, dans le public et dans le privé, alors qu'on a tout fait pour monter les uns contre les autres. Nous, ce qu'on dit, c'est assez simple, puisque tout à l'heure, j'ai évoqué le fait de prendre la retraite par points, si on prend toute la carrière. Et les enseignants commencent à 1600, 1700, hein, n'hésitez pas à compléter ce que je dirais. Si on prend les pires années de sa vie, ces moments de faible salaire, comme les enseignants, ou de chômage, comme dans le privé. Je pense à Marie-Hélène, qui était ouvrière du textile dans le Nord, par exemple, qui me dit « Thomas, je vais être à 1047 euros par mois ». Notre revendication, on espère que convaincre la CFDT de rejoindre, comme c'est le cas par bien de ses militants, de se joindre à la mobilisation, pas pour mobiliser, mais pour améliorer ce qui existe. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'en augmentant les cotisations, par exemple en diminuant le CICE pour les entreprises du CAC 40, pour ne citer que ça, c'est 6 milliards, alors qu'il y a 10% d'emplois en moins dans les entreprises du CAC 40. Nous, on dit simplement, si on augmente les cotisations, on équilibre le régime des retraites puisque ça ne joue à rien du tout. On conserve le meilleur système de retraite au monde parce que partout où il y a eu des retraites par points, par exemple la Suède, c'est 16% de taux de pauvreté chez les retraités alors qu'il est que de moitié en France. Donc, est-ce que c'est la bonne voie ou améliorons tous ensemble ce qui existe pour avoir une réelle amélioration du système de retraite tel qu'il est ? Et je réinsiste sur la question. Autour de nous, des parents, des voisins, des familles qui sont à 1000 euros par mois, il y en a des millions. Nous disons pas une seule retraite en dessous du SMIC et prendre toute la carrière et pas les meilleures années dans le public ou dans le privé, c'est finir avec des retraites de misère.
Frédéric, je voudrais qu'on reste sur cette question des enseignants. Il y aura une autre question qui viendra dans la foulée ici.
Il y a plusieurs choses. Les enseignants...
Et notamment sur les annonces de Bruno Le Maire ce matin.
C'est-à-dire que c'est la réforme des retraites... Alors, je reviendrai sur la question des meilleures années, où on n'est pas du tout d'accord. La réforme des retraites, la prise en compte de la totalité de la carrière, révèle en quelque sorte à quel point la politique salariale était devenue... je sais pas quel mot, je vais rester dans un registre lexical raisonnable.
Mais oui, s'il vous plaît.
Oh, je pensais à quelque chose d'un peu plus rude que ça.
Parce qu'on a une autre dose en termes de registre lexical raide.
Excusez-moi, pour le coup, truande un peu les enseignants. C'est-à-dire que théoriquement, que vous soyez enseignant ou que vous soyez attaché d'administration, qui est un niveau de recrutement équivalent, vous devriez avoir la même rémunération. Or, en fait, alors que la quasi-totalité, pas exagérer, mais enfin la grande majorité des fonctionnaires ont vu leur rémunération complétée par des primes qui ne sont pas, qui ne génèrent pas de droit à la retraite. Les enseignants, grosso modo, en ont peu eu. C'est ça qu'il va falloir compenser. Hein, je veux dire, à la limite, avant même, je veux dire, même sans réforme de retraite, il faut de toute façon compenser cet écart qui s'est creusé entre les rémunérations de différentes catégories de fonctionnaires de même niveau de formation, de compétences, de responsabilité. Après, si vous me permettez un tout petit truc, un petit peu, enfin, aussi petit que possible, sur la prise en compte des meilleures années. Je ne suis pas d'accord. Prendre en compte les meilleures années profite à ceux qui ont, je veux dire, les meilleurs, les plus meilleurs, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que c'est plus l'écart entre les meilleures années et les plus basses est fort, plus on en profite. Et justement, par exemple, dans la fonction publique, un fonctionnaire, j'allais dire comme moi, catégoria, si je regarde mon déroulé de carrière, je double mon revenu au cours de ma carrière. Si je prends le déroulé, le revenu va doubler. Si vous prenez la catégorie C, c'est-à-dire quelqu'un qui est en tâche d'exécution, son salaire va augmenter que de un quart.
Mais
à peu
est-ce
près.
Qu'au début, ça veut dire, plus faible qu'à la fin.
Tu me permets juste de terminer. Oh, pas tellement plus faible. En tout cas, j'aurais, si on prend en compte seulement les 6 derniers mois, de fait, j'ai un bien meilleur rendement, excusez-moi le terme, mais un meilleur retour sur cotation que l'autre. C'est pas, au demeurant, c'est pas la faute des enseignants, hein, c'est la faute, c'est comme ça. Il faut juste le réparer, le compenser. Il est pas normal qu'une partie de la faiblesse des basses pensions, elle vient de là. Une partie de l'inégalité entre hommes et femmes au moment de la retraite vient de là. Plus on a de promotion, plus on est avantagé par ce système. Encore une fois, c'est pas un système mauvais, enfin méchant intentionnellement, mais il a ce travers-là et il faut le corriger. C'est une correction technique, c'est bon, c'est pas, on passe un système à points, comme il en existe à l'AGIRC Arco, comme il en existe à l'AGIRC Cantec.
Et vous savez, moi, je suis du privé.
Alors qu'en Suède.
Et l'AGIRC Arco, je connais.
Et
vous savez, des millions de salariés.
Public, je le connais.
Justement, je connais pas l'AGIRC Arco.
Alors c'est très intéressant.
Juste un dernier truc. En Suède. C'est des comptes notionnels, c'est pas exactement des points, mais ça c'est pas le plus important. Et la baisse des pensions en Suède a une origine autre que technique.
Rapidement, Frédéric Selve, rapidement, allez-y.
Mais je me permets simplement.
Pardon, Thomas Vacheron, pardonnez-moi.
C'est simplement parce qu'il y a, c'est bien de ces débats. On vous remercie puisque ça permet de poser sur la table la totalité des éléments. Il y a des accords d'appréciation. C'est pas un problème cet élément-là. Simplement prendre toute la carrière ou prendre les meilleures années, que vous ayez des petits ou des gros salaires, forcément, ça fait diminuer votre pension. Vous pouvez le faire comme vous voulez, c'est une certitude. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, et vous avez bien raison, c'est corrélé sur la question des salaires. Les salaires sont trop bas. Aujourd'hui, je prends des entreprises du textile. Ce matin, on m'annonce les employeurs leur proposent 0,6%, 0,7% d'augmentation de salaire pour des gens qui sont en 1300 euros. Mais ils me disent, on a commencé encore plus bas. Donc chaque fois qu'on prendra la totalité de la carrière par rapport aux meilleures années, ça baissera les pensions. Et dernier point, c'est que vous savez, moi je suis une génération, j'ai 39 ans, j'ai commencé à avoir mon premier CDI à 29 ans, j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai eu 2 années de chômage complète. Si vous prenez ma carrière total par rapport à ce que je vais être, j'espère, quand je partirai à la retraite, eh ben, j'espère que j'aurai un meilleur salaire à la fin qu'au début, prendre toute la carrière et tout le temps pénalisant, quel que soit son niveau. Et c'est dommage, et je sais que c'est pas votre volonté. Vous êtes très attaché à la question de l'égalité et de la solidarité. Mais ça montre une opposition, alors qu'au contraire, il y a une complémentarité, une possibilité de s'en sortir. Et vraiment, dernier point, je suis désolé.
Non, je vous
c'est
en
de
prie.
Dire, c'est de dire quand même, vous savez, la moitié des salariés du privé, quand ils font valoir leurs droits à la retraite, ils ne sont plus au travail, ils sont au chômage. Donc à chaque fois que vous prendrez la totalité de la pension, la totalité de la vie active, non pas de la carrière c'est dans le public, mais dans le privé, c'est des carrières hachées. Je pense à Nadia j'étais à Carrefour tout à l'heure à Montreuil. Nadia, elle m'a dit, elle a commencé à travailler à 18 ans, elle a eu 3 années de chômage plein et entier, elle a recommencé, il risque d'y avoir un nouveau plan de licenciement, quelle va être sa retraite pour elle ?
Je vous ai pas oublié, Henri Sterdignac, mais j'avais promis qu'on entendrait Claudine, justement, pour clore cette question des enseignants sur laquelle on avait commencé tout à l'heure. Bonsoir Claudine, allez-y.
Oui, bonsoir. Ça concerne les enseignants par exemple, mais pas uniquement. Monsieur le maire dit, oui, il faudra augmenter les salaires des enseignants. Mais que ne l'a-t-il fait depuis 2 ans où il a gelé le salaire des enseignants et des fonctionnaires, d'une manière générale, le point d'indice, et où il refuse de discuter de cette question avec les organisations représentatives? Cette annonce, c'est une annonce et elle survient maintenant parce qu'il y a une certaine inquiétude et elle montre bien que cette réforme est mauvaise, que le gouvernement le sait et qu'il s'agit de baisser les retraites des fonctionnaires et des gens du privé en essayant de nous diviser, de présenter certains statuts.
statut comme étant privilégié.
Merci pour votre intervention, Claudine. Henri Sterdignac, moi, quand j'entends Claudine et que j'entendais les précédents, il y a beaucoup d'appels qui sont autour de cette même teneur, finalement, ce soir au téléphone sonne. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, pour que ce démarrage qui, au départ, était un démarrage RATP, un peu SNCF, sur les régimes spéciaux, devienne ce qu'on entend là, cette espèce de montée crescendo qui existe, en fait, on va dire, depuis peut-être une dizaine de jours et qui a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis?
Il s'est passé d'abord que les enseignants peuvent calculer assez facilement combien ils perdent. Et donc, c'est un cas où les enseignants, ils savaient à peu près combien ils auraient de retraite à la fin de leur carrière. Et là, brusquement, on leur dit, vous aurez des pertes extrêmement importantes, 30%, parfois plus pour ceux qui espéraient avoir une carrière un peu satisfaisante. Et donc, naturellement, il y a un mécontentement qui monte parmi eux. Et puis, d'autre part, il y a le fait que le gouvernement a un discours qui n'est pas audible, puisque depuis 15 jours, le discours, c'est on a un déficit fabuleux en 2025, donc il faut d'urgence prendre des mesures. Et parmi les mesures évoquées, on dit on va d'urgence faire passer la durée requise à... La durée requise à 46 ans, on va d'urgence faire passer l'âge de ouvrant les droits à 64 ans, ou alors on va pendant 5 ans désindexer les retraites. Et donc il y a un discours anxiogène du gouvernement où on comprend pas pourquoi brutalement il faudrait en 2025 équilibrer le système alors que le déficit est entièrement artificiel.
Question sur franceinter.fr pour vous deux, CGT, CFDT. Elle nous vient de Denis qui dit « Je soutiens la grève sans ambiguïté. Pour autant, n'est-ce pas le moment de trouver d'autres formes de manifestation que le blocage des transports qui pénalise les plus faibles? La gratuité, par exemple, les employés d'EDF qui rebranchent les lignes coupées sont peut-être une voie à suivre. »
Oui, moi je partage tout à fait ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il faudrait absolument qu'il y ait autre chose que la grève. Je sais que les collègues cheminots ont essayé de faire la gratuité des jours de grève lorsqu'ils étaient contrôleurs, c'est-à-dire de ne pas mettre d'amende, etc. Ils ont été réprimandés pour ça. Et chaque fois qu'on a essayé de mettre des mesures alternatives à la grève, chaque fois, c'est bouleversé. C'est même pire, c'est même le droit de grève aujourd'hui qui est attaqué. Parce que quand vous écoutez, et je suis scandalisé par les propos de Gérald Darmanin hier dans le JDD, qui ose comparer à nouveau des prises d'otages avec ce qui vient de se passer. Tout à l'heure, un auditeur parlait des morts au Mali, etc. Enfin, des militaires morts au Mali. Il parle de prises d'otages. On recommence le même cinéma avec ce que vient de se passer en France. Et la dernière chose, moi je suis d'accord avec l'auditeur, un dernier point. Ouais. Nous ne voulons pas la grève. C'est le gouvernement, par son entêtement, par son refus de la négociation, par son opiniâtreté, qui oblige tous les salariés à être en grève le 5. Et plus nous serons nombreux le 5 dans la rue, du public et du privé, il n'y a pas de préavis pour les grèves dans le privé, nous le répétons, plus nous les ferons céder rapidement, simplement pas pour les faire reculer, mais encore, et nous insistons, la CGT, notre projet qui pourrait être partagé avec la CFDT, pour améliorer le système des retraites actuelles, pas de retraite en dessous du SMIG, et retour à ce qui existait, à la retraite à 60 ans.
Frédéric Sève, je le disais tout à l'heure en introduction, la CFDT cheminot, qui appelle à la grève, a décidé que ce mouvement serait finalement reconductible, et je pose la même question que Denis, finalement, vous serez, à un moment ou un autre, même si il peut y avoir, et y compris les sondages le disent, un sentiment d'approbation de cette grève, au moins pour jeudi, à un moment, il y aura aussi des usagers, ce sera compliqué. Je vois très bien à quoi ça peut ressembler parce qu'on en fera des sujets. Le premier jour, on fera des sujets sur les gens en vélo, et puis le deuxième jour, ce sera plus difficile, le troisième encore plus. Est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que cette gêne-là soit moins importante? Est-ce que vous savez qu'à un moment, il y aura ce mur-là et que ça peut devenir plus compliqué?
Je crois que la meilleure façon de s'éviter les désagréments d'une grève, notamment dans les transports, mais n'importe où, c'est de trouver un accord avant. Ce qui est posé par les cheminots CFDT, je dis les cheminots SNCF, ça aurait été un peu intrusif, mais les cheminots CFDT, c'est que on passe d'un système à l'autre, mais c'est un peu la même problématique pour les enseignants. Il y a certains profils de carrière, certains types de carrière, certains modes de rémunération qui sont pénalisés par le passage d'un à l'autre. Ils demandent juste la garantie que de pas y perdre et qu'il y ait une compensation. Ça fait juste 3 mois que le sujet est sur la table. Enfin, 3 mois, ça fait bien plus. Si vous voulez mon avis, on aurait pu s'y prendre encore largement il y a 6 mois, 1 an. Mais enfin bref, ça fait 3 mois que fondamentalement le sujet est sur la table. Ils n'ont toujours rien eu, pas la moindre proposition. C'est-à-dire, c'est la première chose, c'est ça. Avant de se poser la question de la grève, pas la grève, quelque chose, c'est-à-dire, bah, et on peut dénouer les situations en avant. Ils ne demandent pas un avantage spécifique. Ils ne demandent pas le maintien d'un privilège. Ils demandent juste que au moins il y ait une proposition sur la table. Déjà ça, hein, déjà ça. Avoir une proposition sur la table pour montrer que la discussion ça, démarre. Pour l'instant, on va y venir. C'est un peu, enfin, ils ne vont y venir. C'est un petit peu le désert des Tartares. Donc, faut pas s'étonner si on aboutit à cette situation-là. C'est vraiment un conflit social. C'est-à-dire, ça fait partie de la vie du travail, mais ça se gère intelligemment, ce qui n'est pas toujours le cas.
Arnaud d'abord, on écoutera Martine ensuite. Bonsoir Arnaud.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Arnaud.
Alors, moi, tout me fait rire.
Vous avez la chance.
Honnêtement, ça me fait rire. Alors, je vous explique pourquoi. Moi, je suis artisan. Donc, okay. La réforme des retraites, de toute façon, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, de toute façon, moi, pour moi, ça ne change rien. Puisque je suis à moins de 1000 euros à la retraite, vu tout ce que je cotise, ça ne change rien. Après, quand j'entends la CGT, Sud, Rail et tout, je pense que s'ils avaient été un peu plus malins, ils seraient battus pour le fret, pour l'écologie, ce qui aurait été beaucoup plus malin que de se battre pour les retraites. Parce que c'est quand même un gros troupeau de privilégiés qui, de toute façon, ne travaillent pas beaucoup. Moi, à chaque fois que je prends le train, je suis en retard. Et la dernière fois que j'ai pris le train, eh bien, il a déraillé entre Paris et Limoges. Et j'ai des amis qui sont handicapés maintenant. Donc je pense que c'est quand même des gens qui devraient un peu se remettre en question.
Merci pour votre témoignage, Arnaud. Il en faut aussi des... Arnaud, je vois que le thème de la question était un peu différent. Arnaud, lui, parlait justement d'une réforme qui avait été avancée. Mais peu importe, on va répondre à ce qu'il vient de vous demander.
Moi, je comprends un artisan.
Et vous allez les entendre, ces choses-là.
Évidemment.
Pendant ces deux jours.
Et elles seront même mises en exergue par certains et monter la population contre les grévistes. C'est ça qu'ils vont essayer de faire. Moi, je respecte tout à fait et le point de vue et le travail d'Arnaud.
Arnaud, un artisan qui gagne moins de 800 euros, par ailleurs.
C'est, qui s'exploite que lui-même. Et on sait ô combien, si l'artisan a son compte sans salarié, puisque on sait ô combien c'est pénible et difficile. Et je pense aussi aux agriculteurs, etc. Nous ne balayons absolument pas ces éléments-là. Et on voit bien que la contestation, elle n'est pas que chez les salariés. Mm-hmm. Mais pour revenir sur ce qui nous a... pourquoi on est là? Nous, on est pour améliorer le système des retraites pour tout le monde, c'est certain. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui 90% de la population active, c'est des salariés. Donc, on va commencer par discuter des salariés. De là à dire que des salariés qui travaillent de nuit, en 3-8, à Noël, parce que si je peux aller voir ma famille au Puy-en-Velay cet hiver, c'est parce qu'il y aura eu des cheminots qui feront tourner les trains, même le jour de Noël. Ou des agents de la RATP qui travaillent dans le noir en permanence, avec des conditions dégradées, si c'est cela les privilégiés, je pense qu'Arnaud, avec tout le respect que je peux avoir pour lui, se trompe de combat. Les privilégiés, sûrement, c'est ceux que Monsieur Macron, président des riches, soutient, puisque le point de départ de votre auditeur était, le premier auditeur était sur la suppression de l'ISF. Évidemment, si on enlève des impôts pour les très riches, eh ben, il faut les prendre ailleurs, et c'est sur le dos des salariés, des travailleurs et des travailleuses. Donc, Arnaud, si au moins je peux vous convaincre de ne pas vous tromper de colère, on aura fait un chemin ensemble.
Et le cheminot de la SNCF se bat aussi pour le fret et pour des transports plus écologiques. Il faut pas opposer les combats.
Mais c'est même une question sociale, une question écologique. Améliorer le système.
Ne pas opposer et améliorer les services publics. Je veux dire, c'est quand même une préoccupation importante des fondamental salariés à la RATP comme à la SNCF.
À la SNCF, avec le train des primeurs, pour répondre à Arnaud, où il y a eu une longue bataille commune, d'ailleurs, de toutes les organisations syndicales et des cheminots pour un train des primeurs, donc qui amenait les fruits et légumes de Perpignan à Rungis.
Alors quand même, Frédéric Sèvre, on entend aussi ce qu'il dit notre ami artisan avec ses 800 euros, et ce qu'il verra dans la rue ces prochains jours. Il y a lui, il y a les agriculteurs, il y en a d'autres aussi. Il y a peut-être des choses qui sont compliquées à expliquer pour certains qui sont très loin d'être des privilégiés.
Oui, alors je redis quand même, les salariés de la SNCF ne sont pas des privilégiés.
On est d'accord.
Je dirais même qu'il y en a beaucoup qui sont dans le... comment dirais-je,
mais néanmoins...
grosse difficulté. Mmh. La pénibilité du travail, ça concerne notamment les gens des gens qui travaillent dans les gares, pas seulement les gens qui conduisent les trains, les gens qui travaillent dans les gares. Enfin, il y a bien des choses qui sont ignorées du travail. Je le dis parce que c'est tout de même un petit peu énervant. La réalité, le travail, tel qu'il est, tel qu'il se vit, il passe complètement sous les radars. Et quand même, notamment sous les radars de propos qui restent Je suis désolé, caricatural. Maintenant, le point important, il y a un point qui est important, c'est effectivement artisan qui a une petite retraite, une très petite retraite. Ben justement, moi j'allais dire, c'est un des enjeux de la construction d'un système universel qui va un peu plus loin que simplement améliorer le système existant, c'est effectivement d'être tous solidaires de la retraite des uns des autres. Et que donc, que toutes les formes d'activité, quelles qu'elles soient, soit éligible à des dispositifs de solidarité qui permettent de ne pas avoir une retraite trop basse. Mais pour ça, il faut, je veux dire, quelque part, que la solidarité change de braquet, change de périmètre, et au lieu d'avoir une solidarité organisée, alors de moins en moins, mais par grandes catégories, par statut privé, public, indépendant, salarié, eh bien qu'on réunisse tout ça et que tout le monde soit solidaire de la retraite de tout le monde. C'est aussi comme ça qu'on rendra justice, quelque part, à des travailleurs qui ont un travail tout aussi pénible que sont les artisans, que sont les agriculteurs. Les agriculteurs qui, d'ailleurs, on l'a bien compris, puisque, à différence de ce qu'ils ont fait il y a 50 ou 70 ans, décident de rejoindre une retraite universelle.
Alors, il y a beaucoup de gens qui nous attendent depuis longtemps au 01 45 24 7000. Bonsoir, Denis.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Denis.
Oui, non, je voulais juste dire qu'on parle de retraite, mais au préalable, il faudrait avoir du travail. Et c'est ce qu'attendent beaucoup de gens. C'est-à-dire que... avant de même penser à travailler plus longtemps, il faudrait juste avoir du travail. Et en France, les dirigeants d'entreprise considèrent qu'à 50 ans, vous êtes mort. Mmh. Donc il y a très peu de temps, finalement, de réelle vie au travail.
C'est votre cas, vous, Denis, pardon, oui, de vous interrompre.
Absolument. Mmh. Moi, j'ai 58 ans, tout à fait prêt à travailler plein d'allants. Je suis un jeune godelureau, tout à fait dynamique et plein d'entrain. Simplement, vous envoyez des CV, etc. Il n'y a même pas de réponse. C'est impensable. Donc c'est à mon avis déjà un préalable à toute discussion.
Mais du coup, comment vous le voyez, vous, ce mouvement, Denis, vous qui faites partie effectivement des gens qui, après 50 ans, avaient un mal considérable à retrouver du travail?
Je serai dans la rue, et puis le terme de privilégié est bien évidemment un terme employé par des journalistes qui écrivent dans des journaux qui sont faits par des privilégiés, quoi, en fait. Il faut pas se tromper de combat. On nous a dit qu'il y avait plus de droite, plus de gauche. Non, on est en plein dans la lutte des classes. N'importe quel imbécile peut s'en rendre compte. On est en plein dedans.
Merci pour votre témoignage, Denis. Je voudrais qu'on enchaîne avec Martine et on se parlera ensuite autour de la table dans un instant. Bonsoir, Martine.
Bonsoir à tous.
Allez-y.
Bonsoir à tous. Moi, je voulais vous préciser que je suis retraitée, j'ai 70 ans, et malgré mes difficultés physiques, mon conjoint et moi-même serons dans la rue le 5, parce qu'en fait, pour nous, ça semble être la seule possibilité de nous encadrer dans cette journée. Voilà. Alors, par solidarité, bien sûr, et surtout par inquiétude, parce que tous les effets d'annonce qu'on entend en ce moment des responsables sont complètement contradictoires, donc ce qui engendre une inquiétude. Mmh. Nous sommes très inquiets aussi pour les retraités actuels, malgré tout ce qu'on nous dit. Moi, j'ai aucune certitude de savoir mon devenir de demain. Et puis, je voulais préciser que je suis quand même très étonnée. Il semblerait qu'il n'y ait aucun texte d'établi concernant cette réforme, alors que pour d'autres réformes, le gouvernement a été bien moins, a été beaucoup plus actif et a fait passer ces réformes d'une façon très violente à l'Assemblée nationale, sachant que l'ensemble des marcheurs allaient voter pour les décisions du grand chef. Donc moi, je m'interroge par rapport à tout ça. Et surtout, j'encourage tous les retraités à être dans la rue le 5.
Merci pour votre témoignage, Martine. Il y a beaucoup de choses derrière le témoignage de Martine et aussi de notre ami juste avant, Henri Sterdignac. D'abord, effectivement, ceux qui sont là et qui, passés 50 ans, voudraient bien pouvoir parler de retraite, mais ne peuvent pas. Et puis, Martine, y a-t-il une réelle inquiétude à avoir, ou est-ce qu'on est aussi là dans une espèce d'inquiétude généralisée désormais? Y a-t-il une inquiétude à avoir lorsqu'on est aujourd'hui au chômage pour le paiement de ses retraites? Lorsqu'on est à la retraite, pardon, pour le paiement de sa retraite?
Je pense qu'il y a deux problèmes.
J'entends la phrase de Martine. Malgré tout ce qu'on nous dit, fermez les guillemets.
Il y a d'un côté, on est toujours dans une situation où il y a du chômage de masse. Il nous manque grosso modo 5 millions d'emplois en France pour être en une situation satisfaisante. Et donc, quand on dit on va brutalement imposer aux gens de travailler jusqu'à 64 ans, ça veut dire qu'il va y avoir 1,5 million d'emplois manquants supplémentaires. Ça veut dire que beaucoup de gens qui anticipent de partir bientôt à la retraite, on va leur dire rester 2 ans de plus. Et donc, naturellement, ça crée de l'inquiétude. Et par ailleurs, les retraités, ils sont échaudés par le fait que pour certains on a augmenté la CSG, pour d'autres, enfin pour la totale, pour beaucoup, on a désindexé les retraites, que le bruit court qu'on va continuer à désindexer les retraites, et donc la promesse qu'avait fait le candidat Macron disant je toucherai pas au niveau des retraites, elle n'a pas été tenue, et donc naturellement les retraités se disent on va encore servir de variable d'ajustement. Ça fait partie de l'angoisse ou de d'une partie de la population.
C'est vers vous que je me tourne, Frédéric Savet. Est-ce qu'on est, selon vous, dans une angoisse là, effectivement, qu'on peut entendre, mais qui est réellement, qui est réaliste? Elle a raison de s'inquiéter, Martine, et de dire ce, malgré tout ce qu'on nous dit, moi je crains pour ma propre retraite. Elle a 70 ans, donc il y a une espérance de vie.
Il faut bien comprendre que quand on est retraité, je veux dire, on dépend. Et surtout quand on est retraité, plus on avance l'âge, plus l'âge avance, on dépend complètement de sa retraite pour vivre. Autant, quand on est plus jeune, on peut imaginer d'avoir, on a des capacités de réaction, d'adaptation, mais économiquement, les retraités dépendent, au sens le plus strict du terme, de leur pension. Donc effectivement, il y a besoin de bétonner à fond la promesse de versement de la pension. Alors il y a deux aspects, il y a deux choses. Il y a un aspect positif. On a un système de retraite par répartition depuis 1947. Mm-hmm. Jamais un centime n'a pas été versé. Il n'a jamais fait défaut de paiement. Donc c'est le système extrêmement solide. C'est la solidarité nationale. Donc par définition, on se partage le gâteau de l'année. Donc il y a, de ce point de vue-là, c'est rassurant d'être toujours dans un système par répartition. Mais après, il y a la question de l'évolution de la pension. C'est ce que citait Henri Sterdignac, c'est-à-dire à quel rythme elle est revalorisée. Autrement dit, est-ce que le pouvoir d'achat ne s'érode pas? Une des solutions, je dis pas la solution miracle, mais une des solutions, et c'est un des enjeux de cette réforme, et qui passe un peu trop sous le radar à mon sens, mais c'est qui pilote ce système-là? Qui est aux commandes du futur système de retraite? Est-ce que c'est l'État qui dirige tout? Bercy, pour dire les choses, ou est-ce que le pouvoir est un peu plus partagé et notamment assumé, alors je ne vais pas le dire pour nous syndicats, ça peut être un peu plus large que ça, mais par des partenaires sociaux, par des acteurs sociaux un peu plus larges, de façon à ce que le système de retraite soit bien piloté dans l'intérêt des salariés et des retraités et pas dans l'intérêt, bah, par exemple, des caisses de l'État. Ça, c'est un enjeu fort et sur lequel, là encore, on manque de réponses nettes.
Il y a une autre question dans la question de Martine Thomas Vachon, c'est sur le texte. Et j'aimerais bien qu'on explique à nos auditeurs à quel moment un texte réel, avec des points précis, sera réellement présenté. Le calendrier dit quoi?
C'est bien toute la question, mais en fait, nous, on présuppose qu'au vu de la longueur des négociations et du temps qui a été imparti pour discuter de tout ça, c'est que y a les gens ont deux questions. Quand est-ce que je pars? À quel âge? Et avec combien? Et à la question quand est-ce que je pars, c'est toujours plus tard. Et à combien, c'est avec toujours moins. C'est ça le principe de cette réforme. Et c'est pour ça qu'ils ne mettent pas en avant les éléments détaillés de la réforme, parce qu'ils pensent que ça serait l'explosion. Et la dernière chose, vous savez, Martine, elle pose la question, elle dit j'ai 70 ans, j'y serai par solidarité. Martine a raison de venir, et elle a intérêt de venir pour elle, et pour ses enfants et ses petits-enfants. Mais pourquoi pour elle d'abord? Parce que même les retraités seront impactés, parce que dès lors que leur fameuse règle d'or, les 14% du PIB maximum qu'on ne doit pas dépasser, parce que ça c'est acté, ça c'est marqué, ça, vu qu'on sera de plus en plus nombreux à vieillir, et c'est tant mieux, donc plus en plus nombreux à la retraite, le gâteau, il faudra partager les miettes avec encore plus de monde. Donc mécaniquement, ça fera baisser les pensions. Et une dernière chose, souvent on me dit, vous savez, les jeunes, ils sont pas impactés par la question des retraites, ça les intéresse pas, etc. Les jeunes, si les anciens travaillent plus longtemps, il y aura pas de travail. Pour les jeunes, c'est mécanique aussi. Il faut donc travailler moins pour travailler tous et toutes, d'où notre projet d'un retour à la retraite à 60 ans, pour le public et pour le privé, avec des retraites décentes, pas de retraites en dessous du SMIC.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le texte est très difficile à mettre en place.
J'allais vous demander,
parce que il y a des, on a bien vu qu'il y a des tas de problèmes particuliers. On
a
vu
les enseignants, les droits familiaux, les enseignants,
il y a les enseignants, il y a les avocats, il y a les infirmières libérales. Donc il y a des tas de profession, et le gouvernement ose pas dire clairement que un certain nombre de professions, comme les enseignants, seront très très fortement frappées, et que en échange les mesures de compensation Elles existent pas, et ou elles sont extrêmement faibles, extrêmement faibles.
C'est ce que dit
l'économiste. Il a pas l'argent. Le gouvernement est pas prêt à tout mettre à une hausse de 20% des enseignants. Il faut être, c'est ça le problème.
Tout à fait. Et la Cour des comptes, c'est pas la CGT qui le dit, c'est ni la CFDT, c'est la Cour des comptes qui dit qu'il y a 90 milliards d'euros d'exonérations sociales et fiscales qui sont pour le moins mal utilisé, et la formule est polie, et je reprends les 6 milliards d'euros de CICE qui sont donnés aux seules entreprises du CAC 40. Cet argent-là, il peut servir au pot commun de la cotisation pour augmenter les retraites, et n'importe quel auditeur, il peut faire François Fillon régime par point sur n'importe quel navigateur, et il trouvera l'explication de Monsieur François Fillon sur la question des retraites par point.
Question rapide, réponse rapide. Pardon, Frédéric Sèvres.
Je ne me fierai pas trop à François Fillon, mais par nature.
On a vu les contre-réponses. Question rapide qu'on n'a pas le temps de prendre, mais je voudrais juste mettre dans ma voix celle d'Isabelle qui dit on parle beaucoup des retraites, mais je me pose la question par rapport aux femmes. Déjà, on gagne moins que les hommes, prend des congés maternité, etc. Qu'en est-il pour les femmes dans ces retraites-là, Frédéric Sèvres? Est-ce que ça, on a l'impression que ça a été géré, réglé, ou est-ce que là encore, pour ces femmes-là, il y a encore beaucoup de points d'interrogation?
Dans la situation actuelle, il y a plusieurs problèmes pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une question de niveau de salaire différent, mais j'insiste surtout une question de niveau de déroulement de carrière. C'est là que les femmes sont le plus pénalisées, et c'est là que le système actuel amplifie cette pénalisation au lieu de la corriger. Après, il y a aussi la question des droits familiaux. Je ne sais pas si on a le temps d'ouvrir complètement le dossier, mais peut-être une. Mais justement, c'est ceux qui n'ont pas de déroulement de carrière, ceux qui n'accèdent pas aux emplois, qui n'ont pas la possibilité d'améliorer la situation, sont doublement pénalisés par le système de retraite. C'est là le point de note des accords, mais je crois qu'on va nous couper.
Il nous reste des questions.
Les salaires, c'est le nerf de la guerre, et sont le partage, et c'est tant mieux.
Il nous reste des questions pour d'autres émissions autour de ce même thème. On n'a vraiment pas fini. Merci à tous.